姫島からわずかの距離なんですけれども、
沖合に出現した直径およそ
Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai format actualité et j'ai toujours le plaisir de partager cette émission avec Gaël. Bonjour Gaël.
Salut Charlie.
Pour rappel, le podcast actualité, il est dédié justement à vous faire une synthèse des news que l'on a choisies en rapport avec le Japon, donc il y aura tout un lot de thématiques hein, comme d'habitude, liées au tourisme, à la société, la politique, l'économie ou encore la pop culture. Nous sommes au mois d'avril et c'est vrai que le début de ce mois est le début d'année fiscale au Japon, donc il y a pas mal de news, hein, mais je crois que c'est une habitude dans ce podcast. Donc la première partie, elle va être dédiée au tourisme et je vais te laisser la main Gaël puisque tu vas nous parler d'un projet d'envergure à Tokyo.
Oui, alors autour du marché de l'ancien marché de Tsukiji. Parce que donc ce marché est encore très connu, c'est vrai qu'on a encore des gens qui nous demandent d'aller visiter le marché de Tsukiji, mais il faut savoir que depuis déjà quelques années, avant même le Covid, ce fameux marché a été déplacé à Toyosu, donc 2 ou 3 km plus loin. Alors c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus aseptisé, mais bon, ça protège aussi les professionnels hein, qui travaillent sur place. On peut toujours aller à Tsukiji bien sûr, mais seulement au marché extérieur, qui est toujours sympa à faire, hein, pour goûter, manger un petit peu des sushis, voilà, faire ses emplettes, c'est toujours sympa, on peut quand même le faire. C'est même peut-être plus intéressant que Toyosu à mon goût, mais bon après chacun voit midi à sa porte. Et donc l'espace dédié à cet ancien marché, qui correspond à peu près à 19 hectares, donc en plein Tokyo ça vaut quand même un petit peu d'argent, va être réhabilité. On vient de l'apprendre en tant que centre d'organisation d'événements sportifs et de divertissement. Et ce sera également, par tradition, je pense, en lieu de promotion pour la gastronomie japonaise. Donc cet espace, donc ces 19 hectares, ils appartiennent au gouvernement métropolitain de Tokyo. Et le réaménagement sera entrepris par un consortium qui sera dirigé par un très grand groupe qui est Mitsui Fudosan. Donc l'objectif principal, en tout cas un des objectifs principaux, c'est de stimuler l'activité économique avec cette grande installation, parce qu'il y aura quand même une capacité de 50 000 personnes dans lesquelles pourront se dérouler des événements sportifs et aussi des grands événements internationaux. Donc on n'a pas encore de détails, mais on suppose que ça pourra servir dans le cadre de grandes festivités. Donc Tokyo compte miser sur ces événements afin de maximiser évidemment les répercussions économiques et promouvoir son dynamisme à l'étranger. On se rappelle évidemment de la Coupe du Monde de rugby en 2019 qui avait généré quand même 650 milliards de yens, ou encore des 4 jours de concert de Taylor Swift un peu plus récemment, qui eux avaient rapporté 34 milliards de yens, un petit peu comme partout ailleurs dans le monde. Et ce projet, comme on le disait, n'oublie pas de réhabiliter donc la culture gastronomique héritée du marché de Tsukiji, qui, comme je le disais tout à l'heure, vend encore en gros des fruits de mer et des légumes notamment, ainsi que du poisson. D'après une enquête de 2023 menée par l'agence japonaise du tourisme, donc le fameux JNTO, 35% des touristes étrangers voulaient venir au Japon, entre autres pour manger de la nourriture japonaise, et on les comprend évidemment. Et dans ce grand projet, il y aura aussi une vision du futur, alors à la japonaise évidemment, mais on parle de nouveaux métros, de drones volants, et aussi de nouveaux transports fluviaux. Ça n'a pas encore été très précisé, je crois, Charlie, mais on le saura bientôt.
Ouais, c'est ça, même pour les transports en drone, etc. C'est évoqué sur les simulations, les vues d'artistes, on va dire, mais on ne sait pas si c'est pas du transport de personnes ou de marchandises encore ou autre.
Sans transition, donc on va aller plus vers l'ouest du Japon, au mont Koya. Donc c'est une ville de pèlerinage hein, qui a seulement 3000 habitants, mais qui accueille 1,4 million de touristes. En tout cas, l'année dernière, en 2023, c'est le nombre de touristes qu'elle a accueilli. Donc le Koya-san, fameuse montagne située dans les monts Ki, dans la préfecture de Wakayama, au sud du Kansai, donc au sud de Kyoto et Osaka. Alors cette ville de pèlerinage, elle est très connue parce qu'elle accueille des temples qui ont plus de 1000 ans et on a beaucoup de pèlerins et de randonneurs qui viennent découvrir un petit peu la région, parcourir ses sentiers depuis Osaka, parce que c'est depuis Osaka qu'on part pour découvrir le mont Koya. En 2004, l'UNESCO a désigné au patrimoine mondial de l'humanité les sites sacrés et chemins de pèlerinage de la chaîne de montagnes Ki, ce qui a renforcé la visibilité du Koya-san, et en conséquence, depuis 20 ans, il y a de plus en plus de touristes, alors pas seulement les touristes internationaux, hein, mais aussi beaucoup de touristes japonais. Et alors que le nombre de touristes ne cesse d'augmenter, malheureusement, le coût d'entretien des lieux augmente et il est de plus en plus dur à supporter pour les résidents et la municipalité, notamment en termes de toilettes publiques, le système d'égouts de gestion des déchets et puis les services d'urgence. Donc on va citer le maire de la ville, monsieur Yoshida Hirano, qui nous dit « Le fait est que les habitants supportent un lourd fardeau pour maintenir les infrastructures de la ville. » Ce qui l'a amené à instaurer une taxe de séjour. Donc c'est un petit peu l'actu du moment. C'est que pour aller à Koyasan, prochainement, il y aura une petite taxe, un petit peu comme à Venise, là, qui vient d'être mise en place. Une petite taxe qui servira financer les installations pour faire en sorte que Koyasan soit toujours aussi agréable. On pourrait croire que le tourisme bénéficie financièrement à Koya, mais puisqu'il y a de moins en moins d'habitants et que les sentiers se parcourent gratuitement, donc avant l'instauration de cette taxe, que les entreprises sur place sont également bon marché, et aussi que les repas sont parfois pris en dehors de Koya, c'est-à-dire que si vous faites l'excursion depuis Osaka, ben vous achetez votre ekiben à Osaka, vous mangez un pique-nique pendant la journée, et comme vous faites l'aller-retour dans la journée, ben finalement, on s'aperçoit que là, pour l'an dernier, hein, c'était 71% des touristes de la région qui n'y ont pas dormi. Alors que, on le sait, il peut y avoir ce qu'on appelle le shukubo, donc c'est l'expérience de dormir dans un temple qui peut se faire à Koyasan, mais pour ça, il faudra bien que vous choisissiez votre établissement, parce que on peut trouver des choses très intéressantes et authentiques, mais aussi des choses un petit peu plus touristiques, j'ai envie de dire. Donc il faut essayer d'éviter le trop bon marché, parce qu'on se retrouve parfois dans des expériences qui sont pas formidables. On a eu des lecteurs, des voyageurs qui ont partagé des expériences un petit peu moins sympas, où ils avaient très froid à l'hiver, par exemple. Mais après tout, c'est l'expérience d'un temple où on se lève à 5h du matin, on a la prière, etc. Donc renseignez-vous peut-être avant de le faire.
Oui, c'est vrai qu'on avait vu quelques commentaires là-dessus, notamment des plaintes sur la qualité du couchage ou les cloisons très fines, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on dort dans un temple et non dans un hôtel. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous renseigner un petit peu en amont aussi. Par rapport aux personnes qui vont partir au Japon pour le tourisme, là, on va attaquer une partie plus liée au transport, puisqu'il y a un projet dont on entend parler depuis de nombreuses années et qui a été encore une fois repoussé. C'est ce qu'en effet annonce la Central Japan Railway quant au projet de lancer un nouveau train à grande vitesse, les fameux trains à suspension magnétique. Donc là, on parle de la ligne entre Tokyo et Nagoya qui était prévue pour 2027 avec le projet Maglev et qui, au final, semble reporter pour des raisons à une opposition environnementale sur laquelle on va revenir par rapport à des soucis qu'il peut y avoir dans la préfecture de Shizuoka. Donc pour information, le projet lui il avait été approuvé dès 2014. Les trains à suspension magnétique, c'est pas du tout quelque chose qui est nouveau au Japon et même dans le monde, hein, même s'ils sont assez précurseurs, on va le voir. Mais le cas japonais il est tout particulier puisqu'il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits, notamment depuis 1997, il y a une ligne test vers Yamanashi où il y a des tests tous les jours depuis 10 ans et c'est ça qui a pu aussi donner ce droit de passer à une opération commerciale pour le fameux projet Tokyo-Nagoya pour 2027. Et pour rappel, en 2015, sur cette ligne expérimentale, on a eu le train qui a été élu le train le plus... c'est même pas qu'il a été élu, c'est qu'il a fait la démonstration qu'il était le train le plus rapide du monde avec une pointe à 600 km/h, je crois 603 même km/h. Le projet Linear Chuo Shinkansen vise à relier Tokyo et Osaka au final avec des trains qui vont rouler jusqu'à 500 km par heure, donc vraiment une vitesse folle hein, par rapport à ce que nous on peut connaître sur nos lignes à grande vitesse. Et ça offrirait comme ça la possibilité de faire Tokyo-Nagoya en seulement 40 minutes au lieu de un peu moins d'1h40 aujourd'hui, et par exemple le faire Tokyo-Osaka en 67 minutes au lieu de 2h30. Donc là on imagine évidemment les répercussions, on y reviendra, là c'est plus que du temps de gagner on va dire. Le souci c'est qu'il y a une zone qui est située sur le tronçon entre la capitale et Nagoya qui s'est révélée être non négociable pour l'installation de cette ligne, puisque le gouverneur de Shizuoka, la préfecture, a évoqué des préoccupations en matière d'impact environnemental, puisqu'en effet, on va installer pas loin de 9 km de tunnels qui vont traverser cette préfecture. Et les autorités locales pointent du doigt le fait que en fait, ces tunnels vont entraîner l'écoulement des eaux souterraines en dehors de la rivière Oigawa. Et ne soyons pas dupes, hein, le Japon il fait également face à un projet qui est très très coûteux, et c'est notamment ça qui occasionne des retards, puisque le projet il est à plus de 10 000 milliards de yens, quand on sait la technologie, l'innovation qu'il a fallu mettre en place, et surtout en fait il faut imaginer que ce train là, donc c'est celui qui est en, on va dire en lévitation à peu près 10 cm du sol, il doit se déplacer sur des lignes qui vont être le plus droit possible et le plus plate aussi possible, sachant que le Japon c'est énormément de montagnes. Donc pour la construction c'est un coût faramineux, et de toute façon pour son fonctionnement c'est une consommation multipliée par 3 en termes d'énergie par rapport au Shinkansen actuel. Voilà, donc la JR elle continue évidemment de motiver les troupes pour son projet, notamment en posant l'argument de créer un axe qui va forcément avoir des retombées économiques, vu la vitesse du transport, et ça permettrait aussi de créer une ligne de secours vitale entre les trois plus grandes villes du pays, donc en cas d'aléa, de séisme, de tsunami, etc. Donc tous les moyens sont bons pour convaincre les foules. Et pour information, Shinzo Abe, il avait déjà proposé de vendre la technologie aux États-Unis pour relier New York à Washington en une heure, et donc c'est un projet dont on entend encore parler. Et puis par rapport à cette technologie-là, aujourd'hui du côté États-Unis, c'est de Elon Musk, hein, le fameux ingénieur dont on entend parler avec son Hyperloop.
Ouais, bon là on est en 2024, donc c'est vrai qu'on se doutait bien là que dans 3 ans ce serait pas prêt. Mais le report, là, il est dans 10 ans. Alors, c'est vrai qu'en termes d'application, nous, on pense évidemment au tourisme, où on se dit qu'on va mettre seulement une bonne heure, comme tu le disais, pour faire le trajet au lieu de 2h30. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant pour nous en tant que voyageurs. Mais il faut savoir que cette ligne Tokyo-Osaka, elle est hyper fréquentée par des salariés, en fait, qui font l'aller-retour très souvent, que ce soit pour, voilà, s'ils ont des rendez-vous ponctuels ou alors même de manière hebdomadaire. Je crois que même on a certaines personnes qui habitent dans une ville, qui travaillent dans l'autre. Enfin, c'est un trajet qui est quand même très, très, très utilisé. Donc ça va permettre d'accélérer fortement les déplacements entre ces deux, les deux plus grands pôles du Japon, quoi.
Et tu fais bien d'en parler, puisqu'on va rester justement dans la thématique ferroviaire pour la prochaine news. Toujours donc sur le train, et donc tu nous parlais de cette ligne très empruntée, donc celle de la Tokaido. Et par jour, c'est plus de 470 trains qui la parcourent. Et en règle générale, le Shinkansen, c'est une dizaine de lignes de TGV au Japon. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est très parcouru, oui, par les touristes, parce que vous allez forcément le croiser, ce train. Mais comme tu nous disais, pour les salariés, c'est vraiment une nécessité pour aller au travail.
Juste une petite parenthèse, parce que ce qui est intéressant de savoir pour nos amis qui sont fans de trains, c'est que contrairement à nous, où on a un rail et sur lequel peuvent rouler des trains régionaux ou des TER par exemple et des TGV, au Japon il y a des lignes particulières en fait pour le Shinkansen, il n'emploie pas les mêmes lignes que les autres, ce qui fait que en fait il y a des maintenances toutes les nuits, et comme c'est une ligne spécifique, elle est dédiée au Shinkansen et elle permet justement d'accélérer les rotations, etc. Donc là il y aura une troisième ligne en fait qui sera consacrée au maglev, ce qui permettra encore de faciliter les différentes gammes en fait de trains.
Oui, puis là, c'est plus du tout la même technologie, donc c'est forcément de nouveaux rails, si on peut appeler ça encore des rails. Et donc, on parlait des salariés, et bien, la JR commence à réfléchir aussi à mettre peut-être à disposition en 2026 de nouveaux wagons où il y aurait seulement 2 salles privées, donc pour pouvoir travailler notamment en visio ou se reposer pour ces hommes d'affaires entre autres. Donc ce sera forcément beaucoup plus onéreux, des salles beaucoup plus grandes qui vont être adaptées à une certaine demande, donc évidemment plus de luxe, donc plus luxueux que la Green Class. Plus d'espace, plus d'intimité, et on pourrait contrôler donc la lumière, le son des annonces, ajuster la température de la salle, etc., avoir une meilleure connexion Wi-Fi. Donc ça, c'est évidemment fait plutôt pour les classes très aisées, ou alors évidemment les salariés.
Alors ça existe déjà, c'est pas exactement pareil, mais il y a une classe sur certains Shinkansen qui est ce qu'on appelle la grande classe, GRAN, notamment pour aller dans le Tohoku. Là, comme tu l'expliques, c'est plutôt des sortes de box en quelque sorte.
C'est ça. Voilà. Donc là, on n'a pas de plan encore, mais par contre, ça serait apparemment mis à disposition en 2026. Et je disais par wagon, mais il me semble que c'est plutôt 2 pièces ou 2 cabines comme ça par train plutôt. Après, est-ce qu'on pourra vraiment encore parler du mode écolo de transport en commun ? Je ne sais pas. Ou de transport même en commun ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des projets qui vont avoir lieu incessamment sous peu.
Mais c'est vrai que ça va dans le sens de la montée en gamme en fait, des transports au Japon, et pas que les transports d'ailleurs, mais on voit que les Japonais, évidemment, adorent leurs trains. Il y a de plus en plus de trains un petit peu luxueux, soit des trains de nuit, soit des trains régionaux, des trains scéniques, comme ils appellent. Et évidemment, cette grande classe, je pense qu'à l'avenir, on devrait l'avoir dans de plus en plus de régions, parce que ça permet, c'est un peu comme la classe premium, business et première en avion. Là, on a vraiment le régular, enfin, le train ordinaire. On a le train green et le train grande classe dans certaines zones. Donc, c'est vrai que ça renforce encore un petit peu l'aspect premium du Japon, et ça permet d'avoir des sièges qui sont de meilleure qualité, moins de monde, des prestations plus haut de gamme et ainsi de suite.
Donc ça, c'est notamment très intéressant pour les grandes compagnies justement qui vont faire circuler leurs employés. Et puis, on connaît l'amour du Japon aussi. Hein, quand vous irez en gare, vous verrez sans doute des personnes prendre en photo les trains passés. Donc, si vous entendez parler de Densha Otaku, il s'agit de ces personnes-là qui aiment squatter les quais de gare ou longer les voies ferroviaires pour prendre ces fameuses photos. Sans transition, le Japon, dans son entièreté, lui, il est connu évidemment pour sa propreté dans les rues, dans les parcs, on note ses chaussures aussi dans les maisons, etc. Et dans les aéroports, c'est un peu pareil. suite à une enquête menée par Skytrax cette année, plutôt entre août 2023 et mars 2024, Haneda est arrivé, donc le fameux aéroport de autour de Tokyo, au sud de Tokyo, est arrivé premier du top 10 des aéroports les plus propres du monde. Et en plus de ça, il y a également trois autres aéroports qui font partie de ce top 10 des aéroports japonais, évidemment, notamment le Chubu Centre Air qui est 5e, l'aéroport de Narita qui est 6e et Kix, l'aéroport de la baie d'Osaka qui est 7e. Et donc ça, on voit aussi dans ces études, dans ces enquêtes, que l'après-Covid a eu un impact certain sur la sensibilité des voyageurs, puisque les usagers, eux, demandent de plus en plus d'hygiène et de propreté dans les aéroports. Donc c'est une bonne chose, évidemment, de savoir ça. Et puis ça montre bien aussi la motivation du Japon à garder l'entièreté de ses services le plus propre possible. Donc c'est vraiment le pays serviciel par excellence. Et pour parler de serviciel, eh bien on peut noter que l'aéroport de Kix annonce qu'en 30 ans, ils n'ont pas perdu un seul bagage, avec plus de 10 millions de bagages en transit par an. Donc on peut dire que c'est un exploit, hein, parce que ça fait quand même du bagage au centimètre carré. Et donc apparemment, il n'y a pas eu un seul bagage de perdu. Donc si vous avez perdu un bagage à Kix, n'hésitez pas à lever les doigts.
Toujours sur le transport, donc ce mois-ci, le 8 avril, Uber Japon a lancé un service de covoiturage. Donc aussi étonnant que ça puisse paraître, il n'y avait pas de service officiel de covoiturage au Japon. Donc c'est un service qui va permettre aux personnes d'utiliser leur véhicule personnel pour proposer des courses payantes. Donc les conditions pour accéder à ce système sont assez simples, donc être titulaire d'un permis, alors un permis standard, ça c'est important de préciser, il n'y a pas besoin de passer un autre permis, utiliser son propre véhicule privé et être quand même sous la direction d'une société fiscale locale, par exemple une compagnie de taxi. Alors cette décision du gouvernement de lever partiellement l'interdiction du service de covoiturage vise à soutenir le secteur des taxis, notamment dans les zones urbaines et les hauts lieux touristiques où on déplore un certain manque de chauffeurs. On voit par exemple dans les zones les plus touristiques qu'il y a de plus en plus de longues files d'attente pour les personnes âgées par exemple qui prennent le taxi pour accéder aux soins. On l'a vu pendant le Covid, mais c'est valable également depuis la reprise. Ça nécessite aussi pour les gens qui voulaient sortir de rentrer plus tôt des restaurants et bars. Ça pénalise aussi un petit peu le tourisme et ça permettrait aussi d'augmenter le nombre de taxis sans permis depuis l'aéroport. Les aéroports, notamment celui de Narita qui est situé. Alors j'ai pas rebondi tout à l'heure Charlie quand tu en parlais, mais dans la préfecture de Chiba en fait, Narita c'est l'aéroport le plus éloigné, donc si vous avez à choisir, je fais une petite parenthèse entre les deux aéroports pour arriver à Tokyo, choisissez Haneda, qui est beaucoup plus proche de la ville. Alors, quand et comment utiliser ce service? Donc dès le mois d'avril, on l'a dit, hein, donc c'est déjà lancé au moment où vous nous écoutez, il y a une application qui est disponible hein, sur Google ou sur Apple, disponible en 50 langues, et alors ce service pour l'instant est limité à certaines zones, donc notamment certaines parties des préfectures de Tokyo, Kyoto, Kanagawa et Aichi, donc c'est la préfecture de Nagoya, et seulement à certaines heures, hein, donc ils évitent quand même la concurrence vis-à-vis des taxis, le gouvernement a préféré limiter aux heures où les taxis sont les moins accessibles. Donc l'entreprise prévoit d'augmenter progressivement le nombre de véhicules en service et les zones géographiques qui seront exploitées. Donc en plus de ces quatre zones, le ministère des Transports a d'ores et déjà donné son feu vert pour élargir donc l'application à 8 autres villes qui seront donc Sapporo, Sendai, Saitama, Chiba, Osaka, Kobe, Hiroshima et Fukuoka. Donc on commence à couvrir une certaine grande zone du Japon maintenant à partir du mois de mai. Et donc pour mettre en place ce système, le Japon appelle évidemment du personnel, donc notamment les fonctionnaires à la retraite, les policiers et les pompiers à devenir chauffeurs. Les raisons données, c'est leur connaissance des routes, leur expérience professionnelle et puis la confiance du public dans ce type de profession. Et on réfléchit aussi à un système qui permettrait à ce que ces chauffeurs remplacent les professionnels des compagnies de taxi officielles en cas de congé. Donc pour l'instant, c'est un petit peu un système en phase de test, mais ça pourrait améliorer un petit peu le transport des personnes.
Et puis comme on le redira tout à l'heure, et c'est un peu notre fil rouge aussi en ce moment pour le podcast Actu, vu qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, eh bien ça permet aussi eux de financer entre guillemets leur retraite. Et puis en fait c'est surtout que c'est la main d'œuvre active à plus de 60 ans on va dire, donc ils vont essayer de chercher dans cet échantillon de la population. Et on enchaîne justement sur cette thématique de société, notamment avec une anecdote assez drôle, hein, dont on a même entendu parler en France ce mois-ci. Le professeur Hiroshi Yoshida du Centre de recherche sur l'économie et de la société des personnes âgées de l'université de Tohoku, rien que ça pour le titre, il a tiré la sonnette d'alarme sur une crise imminente, Gaël, puisque apparemment pour 2531, tout le monde au Japon portera le nom de la famille Sato. Donc apparemment, il y aurait peut-être une invasion possible de Sato au Japon pour 2531. Et donc ça fait écho justement à ce qu'on aborde souvent dans le podcast, c'est-à-dire la crise démographique de l'archipel nippon. Ce professeur, il a présenté ses résultats de recherche et il a bien indiqué que déjà ce nom de famille, donc Sato, est très répandu au Japon. Il y a 1,5% de Japonais qui y portent ce nom de famille. Et entre 2022 et 2023, le patronyme a affiché un taux de croissance de 0,83%. Et donc ce qui l'inquiète, c'est que si ce rythme de croissance se poursuit, cela pourrait déclencher des effets boule de neige. Et donc on finirait avec tous le même nom de famille au Japon. Et donc il a surnommé ce phénomène le problème 2531 Sato-san.
Alors je tente une blague de linguiste, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de diabète au Japon en 2500, parce que Sato, ça peut aussi vouloir dire le sucre en japonais.
Donc tout le monde porterait le nom de sucre. Diabétique ou non, pour le professeur c'est un vrai souci, puisqu'il a même lancé un sujet, enfin tout un débat, en lançant une initiative nommée Think Name Project, pour sensibiliser un maximum de personnes sur ce souci lié à la natalité, notamment au Japon. Pour poursuivre sur la natalité, donc on évoque souvent la crise démographique du Japon ici. C'est un peu notre fil rouge, comme je disais tout à l'heure. Selon une estimation publiée, donc de nouveaux chiffres là ces mois derniers, les ménages composés d'une seule personne devraient représenter quasiment 44% des 52,60 millions de ménages japonais en 2050. Et en plus de ça, près de la moitié de ce chiffre serait constitué de personnes âgées. Et dans le même temps, la part des plus de 75 ans, elle a récemment passé la barre des 20 millions de personnes, donc c'est un record, quand on sait que les 0-14 ans représentent seulement 14 millions de personnes vivant au Japon, soit 11% de la population. Donc comme on l'évoquait l'autre fois, c'est vrai que l'histoire, la petite blague du fait qu'on trouve plus de couches pour personnes âgées et pour animaux dans les rayons de supermarché, au final, c'est quelque chose qui va s'avérer de plus en plus véritable. Et pour cette capsule d'actualité, nous allons parler un peu politique et on va se rapprocher de la France, puisque comme vous avez peut-être vu aux informations, il y a eu un voyage très confidentiel de la part du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui est resté très très confidentiel avant son départ, hein, puisque ce membre du Parti des Républicains est parti du 8 au 15 mars dernier. Et cela sans prévenir vraiment les élus de sa région, alors que c'est un déplacement, en tout cas annoncé comme d'utilité publique pour sa région. Il va en faire la promotion, on y reviendra. Donc le fait qu'il ne poste rien sur les réseaux sociaux comme d'habitude, ça en fait, nous, on voit pas, c'est pas vraiment le souci, c'est plus ce que révèle Le Monde, donc, puisqu'il a répété un peu ce qui lui était reproché avec la fameuse histoire du dîner des sommets il y a un an et demi, il me semble, des dîners secrets menés par cet homme politique au milieu de châteaux, de millionnaires et de bouteilles de champagne. Donc là, on reste un peu dans la thématique, puisque l'on parle d'un dîner dans l'hôtel Courtyard by Marriott auprès du chef étoilé Christophe Poco. Donc ce chef étoilé, lui, il a déjà son restaurant, hein, le Lugdunum Bouchon Lyonnais basé à Tokyo. Donc c'était un repas en présence de 150 chefs d'entreprise, français et japonais entre autres, et c'est l'événement lui-même qui semble financé par la région Rhône-Alpes. Donc c'est ce qui pose le souci, donc que ce soit de l'argent public français qui finance cette excursion et ce type de convivialité, on va dire. Est-ce que tu veux connaître le menu, Gaël ?
Avec plaisir, j'en salive d'avance.
Donc je cite évidemment le journal Le Monde qui nous parle de saucisson pistaché en petit burger, boudin blanc truffé, boudin noir maison, quenelle de brochet, saumon du Mont Fuji, donc là ça devient un peu plus japonais pour le coup, avec lentilles du puits, cervelle de canut, dessert au marron de l'Ardèche.
Je n'aurai qu'un mot, miam.
On n'était évidemment pas présent pour accompagner Monsieur Wauquiez et on ne va pas faire de détails sur ce qui a pu se passer. Mais l'enquête révèle qu'il a surtout fait un tour, un petit crochet, par les stations de ski d'Hokkaido, là pas avec ses équipes, hein, en perso, et qu'il a eu le droit à une visite privée du parc Ghibli. Donc c'est aussi pour ça que ses opposants et puis la société lui font des reproches.
Alors, donc si vous êtes lyonnais, pensez à votre responsable de région. quand vous allez regarder votre fiche de paye. Dites-vous que si vous allez au Japon, il y a une petite partie qui a servi à faire un beau voyage.
L'homme politique français n'est pas le seul à faire des couacs politiques, puisqu'on va parler de nouveau de Fumio Kishida et de Monsieur Asso.
Et oui, donc à chaque mois, sa Kishida News, parce que le premier ministre japonais, donc Fumio Kishida, a été remarqué pour son autodérision plus ou moins mal placée. Alors, pendant son déplacement, donc, il s'est rendu aux États-Unis au mois d'avril, où il a rencontré le président Joe Biden pour démontrer la solidité de l'alliance bilatérale. C'était quand même le premier dirigeant japonais à se rendre aux États-Unis depuis 9 ans en tant qu'invité d'État. Et il a déclaré donc à la Maison Blanche cette citation: « Avant de venir ici, mon équipe de protocole m'a dit que personne ne s'était jamais plaint du fait que mon discours était trop court. C'est probablement un bon conseil, donc je garderai mon discours court. » Le voyage du Premier ministre japonais à Washington a lieu alors qu'il est très très bas dans les sondages japonais, ça on l'a déjà évoqué ensemble dans les podcasts Actu, parce qu'il traîne toujours comme casserole en fait ce scandale de fonds politiques qui a considérablement érodé la confiance du public dans son parti, donc on rappelle le parti libéral-démocrate, qui souffre de donc, ce scandale de caisse noire, où les fonds collectés lors de réunions de soutien aux partis allaient aux factions sans être déclarés. Donc ça c'est un petit peu problématique pour eux, parce que le mandat de Kishida se termine en septembre, et du coup son maintien au pouvoir est un petit peu compromis. On va voir comment ça va se passer dans les prochains mois, mais on ne manquera pas de vous tenir au courant. Donc Fumio Kishida s'est excusé d'avoir suscité la méfiance du public, et s'engage à mettre en œuvre les réformes politiques pour éviter que des problèmes similaires ne se reproduisent. Et nous, Charlie, je crois qu'on le croit sur parole.
C'est une bonne initiative, en tout cas pour le futur, si ça se met en place.
Donc pour vous donner la citation qui a un petit peu le plus fait parler d'elle pendant ce voyage, je cite donc Monsieur Kishida: « Laissez-moi vous présenter ma femme Yuko, qui est dans le public. Le fait que j'ai épousé Yuko devrait vous donner une grande confiance dans toutes mes décisions. » Voilà.
C'est une phrase qu'on aurait pu retrouver dans le film Gre, je pense, quand il présente sa femme.
C'est bien possible. Ça se trouve, c'est une vraie citation. Et donc, concernant un autre grand homme politique japonais, M. Asso, Taro Asso, dont on a parlé il y a quelques temps ensemble, Charlie, il était également de voyage, alors pas dans le même voyage, mais il était aux États-Unis également, et l'ancien Premier ministre japonais a rencontré Donald Trump à New York, dans un contexte où les dirigeants de certains pays établissent des relations avec l'ancien président américain. C'est un peu compliqué pour Kishida de le faire actuellement, mais ça lui permet de lancer un de ses hommes forts, parce que il est quand même vice-président du Parti libéral-démocrate, et il était allié de feu l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, qui a été assassiné voilà, il y a quelques temps, et qui lui-même avait noué de solides relations avec Trump. Donc à l'approche des élections américaines de novembre, on voit que les choses commencent à bouger sur l'échiquier politique, et que le Japon veut aussi se placer au cas où Trump serait réélu en fin d'année. Donc Donald Trump a dit: c'est un homme très respecté au Japon et au-delà, en accueillant Taro Asso dans la Trump Tower, et il a ajouté: c'est un grand honneur de l'avoir.
A very popular man, you know that, right? Well, he's a highly respected man in Japan and beyond, and somebody that I've liked and I've known through our very dear friend, right? Shinzo. We love Shinzo.
Donc les deux hommes politiques ont discuté de l'importance durable de l'alliance américano-japonaise pour la sécurité physique et économique des deux pays, ainsi que des défis posés par la Chine et la Corée du Nord. Et de manière un petit peu plus officielle peut-être, la ministre japonaise des Affaires étrangères Yoko Kamikawa a déclaré aux journalistes que le gouvernement n'était pas impliqué dans l'organisation de la rencontre entre Asso et Trump, ce qui montre bien qu'il y a un petit malaise peut-être dans cette réunion.
Et puis ça, ce sont des news hein, que l'on va nourrir au fur et à mesure des podcasts actualités, parce qu'on va forcément savoir un peu plus, notamment sur la possible réélection ou non de M. Kishida. On poursuit cette fois avec la thématique liée à l'économie japonaise et on commencera par une news concernant l'effondrement des salles d'arcade au Japon. Donc le déclin inexorable de ces salles, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau, on en a même déjà parlé. En 2022 déjà, on perdait l'emblématique complexe à l'effigie de Sega. Donc Sega s'est effacé pour laisser place à l'enseigne Gigo. La qualité et la quantité de bornes évoluent vers le moins bien d'après les avis des usagers. Donc ça s'efface de plus en plus pour des machines à grappin, alors que le rétro gaming, lui, va être de plus en plus populaire sur nos machines de salon, par exemple, ou les PC. passer. Donc il y a vraiment un franc succès de ce point de vue-là, mais pas pour les bornes d'arcade. Et ce déclin, il est connu et visible, même si jusque-là, en fait, c'était assez flou parce qu'il n'y avait pas vraiment de statistiques. Mais ça, c'était avant le travail du cabinet financier Teikoku Databank. Ça, on a pris l'info chez Gamekult qui a écrit un article en partie sur cette thématique. Le Japon lui aurait perdu près de 8000 salles d'arcade en 10 ans. En 1986, on comptait 26 573 salles apparemment, pour en retrouver en 2019 seulement 4022. Donc on voit que la diminution était drastique. Les salles de jeux spécialisées sont 30% moins nombreuses depuis 2020. Donc il y a forcément l'impact du Covid, mais pas que, puisqu'il y a aussi de nouvelles façons d'aborder le jeu vidéo et de le consommer, notamment avec le jeu mobile. Puis de toute façon, exploiter une salle au Japon, bah, il y a forcément le coût de l'électricité qui a augmenté, le change de la monnaie, on le verra, qui n'est pas du tout en la faveur de cette entreprise, la hausse des taxes sur la consommation, etc. Et il faut savoir que si vous mettez une pièce de 100 yens pour votre partie, eh bien le commerçant, en règle générale, lui, ne perçoit en bénéfice que 6 yens. Donc voilà, on voit la perte aussi là-dessus. Pour citer justement l'article de Gamekult, il y a de quoi décourager la vocation et donc on voit difficilement comment ça pourrait aller vers le mieux. Et en petite note de fin par rapport à ce sujet, il y a une annonce d'augmentation qui rentrera en vigueur le 1er mai auprès d'une des plus grandes succursales japonaises dans le domaine, donc qui est Mikado, qui est connue notamment pour organiser et promouvoir le jeu vidéo. Puisque ces machines Mikado vont cesser de prendre les pièces de 50 yens et tout sera au minimum à 100 yens. Donc ça veut dire que si vous aviez l'habitude d'user de jeux à 50 yens, eh bien là ce sera le double au minimum.
Ouais, moi ça m'attriste un petit peu parce que j'aime beaucoup aller dans les salles d'arcade quand je vais au Japon. Donc peut-être profitez-en lors de votre prochain voyage parce que on voit qu'il y en a de moins en moins et ça reste quand même quelque chose d'assez sympathique à faire pour une heure ou deux. Pas seulement les machines à UFO Catcher, mais aussi quelques salles d'arcade, des jeux de rythme ou d'autres types de jeux, c'est toujours rigolo.
Oui, puis n'hésitez pas aussi à vous renseigner peut-être à l'avance pour trouver les bonnes salles justement, parce que vous pouvez tomber dans des complexes où il y a... où c'est assez aseptisé dans le sens c'est un peu tout le temps les mêmes machines à chaque étage, quel que soit le gigot où vous allez aller par exemple, mais vous avez forcément de bonnes adresses où vous pouvez aussi retrouver des jeux rétro de votre enfance ou même tester évidemment des nouveautés. Donc voilà, vous pouvez aussi vous renseigner en amont sur quelle typologie de jeux il y a dans les bâtiments.
En matière d'exportation, on a appris ce mois-ci que le déficit commercial du Japon au cours de l'exercice 2023, donc celui qui vient de s'arrêter au 31 mars, a diminué de près de 70% par rapport à 2022. Donc a priori c'est une bonne nouvelle, mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Alors ce qui a bien marché, hein, c'est le niveau record des expéditions d'automobiles à destination des États-Unis, qui compense le ralentissement de la demande chinoise. C'est-à-dire que le Japon vend beaucoup de voitures et les exporte aux États-Unis, notamment des Toyota, on l'a vu, et puis un petit peu des Nissan aussi. D'ailleurs Toyota se porte très très bien. Historiquement, le Japon tire sa force de ses exportations. C'est d'ailleurs ce qui l'a sauvé après les bombardements atomiques, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a fourni la Corée en armement durant la guerre de Corée, à l'époque où elle était fournisseur et base arrière pour les Américains. Donc notamment, on prend l'exemple de mars 2024, où les exportations ont atteint plus de 3,7% et elles ont dépassé les 100 000 milliards de yens pour la première fois. Et les automobiles dont on parlait, donc ces exportations représentent quand même 17% du total des exportations du Japon et elles ont augmenté de plus de 30%. En revanche, les importations, elles, ont chuté de 10,3%. On pense notamment au charbon, au gaz naturel liquéfié et au pétrole brut. Mais attention à l'illusion, comme on le disait, parce que ces chiffres sont valorisés par le contexte de yens très faibles, dont je vais parler juste un petit peu après. Et même si ces exportations augmentent en pourcentage, elle baisse en volume, elle ne cesse de diminuer. Et les exportateurs restent inquiets parce que la monnaie se trouve actuellement à des niveaux historiquement bas. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que le Japon dépend fortement des importations d'énergie et de la hausse des prix du pétrole qui est soumis aux tensions au Moyen-Orient et tout cela fait augmenter les coûts. Donc le yen très faible, justement, comme tu le disais tout à l'heure Charlie, c'est aussi un petit peu notre fil rouge. Ça, on va vous en parler, je pense, tout au long de l'année. Le 26 avril, donc jour où on enregistre, le yen est à 168 yens pour 1 euro Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment un niveau quasiment jamais vu. En tout cas, c'est le cas pour la parité avec le dollar, parce qu'avec 1 dollar, on obtient 153 yens, qui est le plus bas niveau en 34 ans. Et le ministre des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que les mouvements de la monnaie devraient être stables. Alors c'est beaucoup de palabres, hein. Je cite, « Nous prendrons les mesures appropriées contre une volatilité excessive, sans exclure toutes les options. » Donc ça, c'est une façon très japonaise de dire « Il faudrait qu'on fasse quelque chose, mais pour l'instant, pas trop. » Là, quand on prépare ce podcast tout au long du mois avec Charlie, on met dans notre petit listing des articles intéressants, et quasiment tous les jours, on voit qu'il y a une annonce faite par le ministre des Finances ou de l'économie ou voilà du Japon qui dit qu'il faudrait quand même peut-être qu'il fasse quelque chose, mais bon, pas trop vite quand même. Alors pour rappel, donc, la Banque du Japon a relevé le mois dernier ses taux d'intérêt pour la première fois en 17 ans, mais ça n'a pas suffi à stopper l'affaiblissement du yen qui a continué à baisser en fait par rapport à l'euro et au dollar. Donc les deux effets principaux, c'est que ça augmente les revenus à l'étranger, comme on le disait à l'instant, des exportateurs japonais en yens, mais cela augmente considérablement dans le même temps le coût des importations, ce qui porte un coup dur au Japon qui manque de ressources. Donc ce qu'il faut retenir, je pense, de cette news, c'est que si vous allez au Japon au cours de l'année 2024 ou même début 2025, si vous avez fait vos réservations, il est vraiment, vraiment temps d'acheter vos yens. Là, j'essaye d'insister beaucoup là-dessus, mais ce sont des niveaux qui ont été très rarement vus. Je veux dire, Kampa, il y a 24 ans, et moi, de mémoire, j'avais dans les 170-171 yens, je ne vais pas dire de bêtises, mais en termes de niveaux les plus faibles, et on a déjà été autour de 110 à 120 yens pour 1 euro. Ce qui veut dire que mécaniquement, quand vous achetez du yen aujourd'hui avec vos euros, vous avez quasiment 50% d'argent en plus, c'est assez fou. Mais si vous prévoyez de partir au Japon, donc je le répète, dans les 3, 6, 9 mois ou 1 an, achetez vos yens maintenant, vous ne perdrez pas d'argent, c'est sûr. Donc pour vous accompagner, on a un article sur Kampai qui s'appelle « Changez vos euros en yens au meilleur prix » où on vous explique un petit peu tout ça, comment ça marche. Et si vous souhaitez commander, on a également des partenaires de confiance qui vous permettront de commander vos yens à pas cher.
Oui, puis ça a des répercussions, et en anecdote, on pourrait dire par exemple que la chaîne de restaurants Tokyo Keizai se porte très bien à l'étranger. Elle connaît évidemment son succès, notamment en Chine, mais au Japon, bah, pour elle, c'est difficile de faire des bilans positifs financièrement, puisque bah, les coûts augmentent de trop. Donc en fait, même une société japonaise peut très bien se porter à l'extérieur, et au final, en interne, eh bien, ça va être compliqué pour pas mal de franchises de poursuivre les succès d'antan, on va dire. Quasiment à chaque podcast actualité, on vous parle de Hayao Miyazaki dans notre catégorie pop culture. Eh bien, on va de nouveau vous en parler, puisque le studio Ghibli a eu la palme d'or d'honneur à Cannes lors du 77e festival de Cannes en mai. Donc on le sait à l'avance, évidemment, ça a été annoncé par les organisateurs le 17 avril. Donc c'est ce festival qui a choisi pour la première fois de décerner cette palme d'honneur collective à un studio. Donc cette distinction, elle est remise hors compétition à ceux qui ont fourni une œuvre remarquable. Et généralement, elle est plutôt remise à un individu et non à un film. Et c'est la première fois que c'est remis de façon collective, donc au studio Ghibli. Cela permet évidemment d'honorer au passage Hayao Miyazaki, dont les apparitions publiques sont très rares, Isao Takahata, qui lui est décédé en 2018, et le producteur Ghibli, Toshio Suzuki, qui a 75 ans aujourd'hui. L'autre palme d'or d'honneur, elle sera décernée à George Lucas pour son œuvre, notamment autour de Star Wars et Indiana Jones, par exemple. Et sur une note similaire, le Time Magazine a révélé aussi que dans sa liste des 100 personnalités les plus influentes du monde, on retrouve Hayao Miyazaki, qui appartient à la catégorie Icon. Donc c'est une bonne année hein, pour Ghibli, puisque le film Le Garçon et le Héron a déjà remporté un Oscar. Et on pourra citer aussi dans les 100 personnes les plus influentes la sociologue Shizuko Ueno, qui est connue pour ses études sur les femmes et les questions de genre.
Et si vous voulez en savoir plus sur Hayao Miyazaki, je vous encourage un formidable ouvrage par un petit auteur qui s'appelle L'œuvre de Hayao Miyazaki. On voulait également vous parler, alors un peu plus rapidement, donc en termes de pop culture, d'une série et d'un film en fait qui sont apparus ces dernières semaines pour l'une et puis hier au moment où on enregistre pour l'autre, donc la série Shogun et puis le film City Hunter. On a eu la chance de pouvoir voir ces deux œuvres. Alors je vais vous en parler très rapidement parce que là vraiment c'est sans filet. Donc Shogun, c'est une dizaine d'épisodes pour une mini-série qui a été diffusée sur Disney+. Marjorie vous a écrit un long article sur Kampai à son sujet, c'était vraiment très intéressant. Alors, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler ces dernières semaines, parfois comme un chef-d'œuvre, je dirais peut-être pas jusque-là. Maintenant, c'est vrai que ça se regarde très très bien. Je sais pas si tu as eu l'occasion de commencer.
Non, pas encore. Ouais.
Mais je te le recommande. Donc, c'est sur Disney+. Ça permet donc de s'approcher un petit peu de l'histoire du Japon. Alors, c'est un petit peu romancé parce que c'est tiré d'un roman. Mais l'histoire du Japon dans les années 1600 avec l'arrivée d'un occidental pendant la guerre entre Tokugawa et du coup pour remporter le shogunat. Du coup, c'est assez intéressant. C'est très très bien produit. Les décors sont très beaux. Les costumes également. Et puis, ça se regarde bien. Donc en tout cas je vous le recommande. Alors, il y a eu un petit débat au sein de l'équipe d'ailleurs parce que certaines personnes de l'équipe ont été surprises qu'on entende beaucoup prononcer Osaka dans la série, alors que comme vous le savez évidemment puisque vous êtes lecteur de Kampai, on prononce Osaka. Ma petite pièce là-dessus sur, alors c'est pareil sans vérification préalable, mais je pense que le kanji de Saka, donc la colline, peut se prononcer Zaka quand il y a un affaiblissement, peut-être quand il est associé. Et puis on voit aussi qu'au lieu de parler de Nippon, donc, ou de Nihon, le Japon, il parle de Hinomoto. Donc voilà, encore une fois, je vous dis ça, peut-être que je vais faire hurler les linguistes et les historiens, mais ça nous a amusé d'entendre Osaka pendant la série. Deuxième média dont je voulais vous parler, c'était City Hunter qui, donc, comme on le disait, a été diffusé sur Netflix hein, depuis le 25 avril, donc depuis jeudi dernier, si vous nous écoutez à la sortie de ce podcast. C'est un film donc japonais, hein, produit par Netflix, qui reprend un petit peu les débuts de l'œuvre City Hunter. Donc rappelons-le, c'est Nicky Larson. Nous, la traduction française, on le connaît comme ça. Donc, c'est Ryo Saiba. C'est un film donc, qui dure 1h45, qui se regarde très très bien, que vous soyez fan ou pas de Nicky Larson. C'est plutôt bien produit, c'est assez drôle. L'acteur principal, je trouve, remplit bien son rôle. Il est aussi rigolo que sérieux. Et puis, ça vous ramènera un petit peu en enfance si vous avez lu, comme certains d'entre nous, City Hunter quand vous étiez beaucoup plus jeune. Donc, voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup. On a parlé un petit peu, Charlie, ensemble du film de Philippe Lachaud, Nicky Larson, qui est sorti il y a quelques années et qui, nous avait pas déplu finalement, je pense, sans trop de prise au sérieux, mais il avait été quand même plutôt bien travaillé. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt très proche de l'œuvre originale, mais c'est une occasion de se lancer un petit peu dans la série ou de se plonger un peu dans la nostalgie et ça se regarde très très bien. Donc, on vous l'encourage. Donc, Shogun et City Hunter, c'est marqué du sceau Kampai.
Oui, puis j'ai hâte de voir aussi à quoi ressemble le personnage dans City Hunter, justement, parce que je trouve qu'en dessin, il a pas mal de charisme, ou même dans l'animé. Donc là, j'ai même pas regardé l'affiche encore du film, etc. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Est-ce qu'il y a le marteau géant ?
Spoiler alerte, oui.
Ah, bon bah ça va, c'est fidèle alors.
Dernière actu pour aujourd'hui avant de passer à nos récurrences, on va parler un petit peu de sushi, donc hors Japon. Alors c'est un petit peu triste quelque part parce qu'on va parler de la baisse d'intérêt vis-à-vis du sushi en France. Alors en fait c'est un classement hein, qui est donné par une étude de Spill Snacking, donc ça vaut ce que ça vaut, mais qui liste en fait le top 10 des types de plats préférés des Français. Et le sushi qui a déjà été sur le podium est aujourd'hui sorti carrément du top 10. C'est-à-dire que même les panini sont passés devant. Alors, les causes qui sont données pour la baisse d'intérêt pour le sushi en France, c'est d'abord le tarif, sans doute lié à l'inflation aussi, le manque d'authenticité dans le sens où on trouve des sushis un peu partout depuis pas mal de temps déjà, donc que ce soit au supermarché, dans des restaurants asiatiques qui sont pas forcément japonais, et puis une offre qui est assez banalisée. Donc c'est vrai que l'univers du sushi authentique est pas forcément respecté dans ce qu'on trouve aujourd'hui en Occident en général. Ça avait commencé avec les Californiens, et puis c'est vrai que maintenant on trouve un peu du sushi à tout et n'importe quoi, même des sushis au Nutella. Donc c'est vrai que là, ça fait un petit peu perdre de l'authenticité au sushi. Donc on le rappelle, les sushis, ça inclut les sushis avec le poisson sur le riz, donc qu'on appelle les nigiri, les maki, et puis aussi les sashimi, qui sont les tranches de poisson cru. Et dans le même temps, donc on voit qu'il y a d'autres types de nourriture asiatique qui gagnent du terrain, notamment la nourriture thaï, la gastronomie thaï, la gastronomie chinoise aussi, les soupes, les bao, etc. Donc ça, tu connaîtras mieux que moi, Charlie. Et pour rester quand même en territoire nippon, on citera les ramen et les udon, qui quand même ont gagné en succès dans la métropole. Et pour vous donner le podium, donc le top 3 des nourritures préférées des Français, top 1, on a la pizza, ensuite le burger et ensuite le kebab, donc avec un petit peu moins de poisson.
On est bien parti pour une population qui va aller de mieux en mieux avec ça.
Vive la santé.
Moi, c'est vrai que cet univers du sushi, moi je comprends qu'il peut être dénaturé justement, parce que comme tu le disais, on voit des sushis un peu tout et n'importe quoi pour peut-être l'attractivité ou autre, mais c'est vrai que ça dénature un peu le produit de base, et puis on se tourne vers d'autres régions du monde qui font la promotion aussi d'autres produits tout à fait goûteux.
Alors au niveau de nos informations de chaque mois, on va parler de la fréquentation touristique au Japon évidemment. Donc en mars 2024, il y a eu un peu plus de 3 millions de touristes étrangers qui sont venus visiter le Japon, donc très exactement 3 081 600. C'est la première fois de l'histoire que le Japon accueille plus de 3 millions de touristes en un seul mois. Le précédent record était à 2 991 000 en juillet 2019, donc peu avant le Covid. Évidemment, ça nous fera penser au surtourisme. On a fait un long article, on vous l'avait indiqué il y a quelques temps. Et puis Charlie et Marjorie, vous allez en parler assez prochainement dans un prochain podcast du sujet du surtourisme qui ne doit pas forcément inquiéter quand on va au Japon. C'est vrai que les chiffres sont impressionnants, mais en fin de compte, on rappelle qu'il y a quand même 126 millions d'habitants au Japon, donc il faut aussi relativiser. Ce qui est intéressant par contre de remarquer, c'est que là, sur le premier trimestre 2024, il y a eu 8 560 000 visiteurs étrangers, ce qui équivaut plus ou moins à ce qu'on avait en fréquentation pour toute l'année 2010 ou 2012. Donc si vous lisez Kampai depuis très très longtemps, c'est vrai que ça nous ramène un petit peu en arrière, où en 3 mois on a eu autant de visiteurs qu'en une année complète, il y a de cela à peu près une quinzaine d'années, un peu moins. Mais encore une fois, on vous encourage, on vous redirige vers notre article sur tourisme pour savoir comment faire pour très simplement éviter les problèmes liés au surtourisme qui finalement ne se concentre que dans quelques endroits du Japon.
Oui, puis si je peux me permettre, dans les podcasts Destination, Kelly et Marjorie, elles sont force de proposition aussi pour améliorer votre séjour justement pour avoir des sites moins fréquentés, même si ça va être dans les mêmes villes, par exemple à Kyoto, Osaka ou Tokyo, les podcasts Destination qui sont déjà sortis. Eh bien, elle vous donne des conseils justement pour avoir de super sites qui sont beaucoup, beaucoup moins fréquentés.
Alors, en termes d'événements au mois de mai au Japon, on va citer Kodomo no Hi, donc le jour des enfants, qui est un jour férié, donc le 5 mai, qui clôt la Golden Week. Un Golden Week qui a commencé le 26 avril. Donc c'est vrai que là, si vous êtes au Japon en début du mois de mai, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Alors au niveau touristique, ça n'a pas tant d'impact que ça. Mais beaucoup d'administrations, d'entreprises, etc. sont fermées. Et puis il y a parfois un petit peu plus de monde dans les trains, donc sur certains jours fériés. Alors là, cette année, c'est un peu une fausse Golden Week, parce que les 3, 4 et 5 mai, qui sont vraiment le pic de cette saison, de ces vacances nationales, sont en partie sur un week-end. Donc ce jour du 5 mai, c'est le jour des enfants. Vous allez voir plein de koinobori dans les rues. Donc ça, c'est un spectacle assez intéressant. N'hésitez pas à aller voir notre article pour en savoir plus. Également, on recommande à Kyoto le 15 mai peut-être d'assister à Aoi Matsuri. Donc c'est un très très grand festival de la ville de Kyoto. Alors c'est très historique, donc ça ne plaira pas à tout le monde et ça bloque aussi beaucoup la ville. Donc si ça vous intéresse, profitez-en, même si on est parfois un peu loin des processions. Et si vraiment ça vous laisse de marbre, eh bien profitez-en pour aller ailleurs qu'à Kyoto le 15 mai. Par exemple à Tokyo, donc quelques jours plus tard, du 17 au 19 mai, on a le festival Sanja Matsuri à Asakusa, donc qui est vraiment très très sympa pour l'avoir fait il y a quelques années. Je vous le recommande parce que c'était vraiment, vraiment intéressant. Et vous avez aussi un festival des bateaux ce même jour, hein, le 19 mai à Arashiyama à Kyoto, qui s'appelle Mifune Matsuri. Donc il y a une procession en fait sur la rivière d'Arashiyama, donc ça c'est assez agréable. En matière d'articles que nous avons publiés sur Kampai, donc en début du mois, nous nous sommes arrêtés au cimetière de Yanaka, donc, ce qui est un spot assez connu pour les sakura, donc les cerisiers en fleurs à Tokyo, sakura qui sont désormais terminés, hein, bien sûr. Ensuite, on n'est pas allé très très loin, en fait on était à Nezu Jinja, au Bunkyo Tsutsuji Matsuri, qui est le festival des azalées, donc qui est juste après les cerisiers. On s'est ensuite dirigé du côté de Kyoto, où on a découvert le salon de thé Gion Tokuya, dans le quartier de Hanamikoji. Vous pouvez déguster du bon thé au matcha avec des mochi. On vous a dit publier une fiche complète sur la préfecture de Hyogo, dans le Kansai, donc qui recouvre notamment Himeji, Kobe, voilà, et d'autres points d'intérêt. Après, on est revenu à Tokyo en vous présentant le Tsukiji Honganji, donc c'est un temple avec une architecture qui est assez insolite. Puis on est restant dans la capitale, on vous a présenté le quartier de Hibiya, qui est assez culturel et chic, hein, en plein centre de Tokyo. Avant-dernier article du mois, c'était Shogun, donc, dont on parlait tout à l'heure, où Marjorie vous a écrit donc, un très long article sur cette série, à la fois notre avis rapidement, et puis pas mal de contexte historique, donc qui est très intéressant si vous avez regardé la série. L'article vous en apprendra beaucoup plus. Et enfin, on a clôturé le mois en vous parlant d'une auberge dans laquelle on a été invité il y a quelques temps, l'auberge Homachi Mikuni Minato, où on a été vraiment servi comme des rois. Et au mois de mai, on va vous présenter de nouvelles destinations, évidemment. Alors, je vous l'ai dit en vrac parce que le planning peut encore changer, mais ce qui est au programme pour l'instant, ce sont les gorges de Kakusenkei, la résidence Nagase, le quartier de Yurakucho, le Hall Yuji, et puis le Design Festin Gallery. Et si on a le temps de le terminer, on vous proposera un article sur le voyage durable au Japon, mais ça, je ne vais rien vous promettre parce que ça demande beaucoup de travail.
Oui, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, qui n'est pas si simple à mettre en place selon l'actualité au Japon. Puis nous, il faut aussi qu'on puisse avoir les bonnes infos. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait aussi vous promouvoir et vous aider à profiter justement de ce type de voyage au Japon. On sait que c'est possible, mais après, il faut aussi que du côté japonais, on puisse vous accompagner au mieux là-dessus. Concernant les podcasts que nous avons diffusés sur les réseaux le mois passé, donc au mois de mars, donc on a évidemment fait en début de mois un podcast actualité. Vous avez également de quoi écouter le 12e podcast voyage que l'on a enregistré avec Marjorie, qui concerne la gestion de vos bagages au Japon, notamment avec le service Takubin. Et on fait un petit encart aussi sur les prises électriques au Japon, vu qu'on sait que ça plaît beaucoup, on a décidé d'en parler. Et toi, Tugel, tu as fait une interview de Zoé Djegou, qui est koyomiste, donc il nous parle des 72 saisons au Japon. Et enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait également le 3e podcast Destination, donc un gros pavé également, qui va vous aider à aussi organiser au mieux votre séjour si vous passez par Osaka. Donc c'est la destination qui nous occupe le long de ce podcast que l'on a enregistré avec Kelly et Marjorie.
Je crois que tu as mal prononcé Osaka, Charlie.
J'ai dit Osaka ?
Non, c'est moi, j'ai dit par rapport à Shogun.
Donc ça, c'était si vous n'aviez pas déjà écouté les podcasts du mois passé. Et pour ce mois-là, eh bien, le 7 mai, on vous proposera avec Marjorie un podcast voyage dédié à la question suivante. Pourquoi le Japon est-il si attirant ? Le 15 mai, tu feras une interview de Naoko, qui a une entreprise à Saint-Nazaire qui s'appelle Ima Japon.
Naoko, elle propose de faire voyager au Japon à travers les assiettes, donc ça va être le titre du podcast, je pense. En fait, elle a, alors, entre autres activités, mais son activité principale, c'est d'importer des produits japonais et de faire découvrir la variété des produits japonais selon leur région, par exemple la soupe miso, le riz, etc. Donc elle va nous en parler, on a déjà enregistré, c'était assez intéressant.
Dommage que ce soit que du son, parce que ça donne envie de voir un peu à quoi ça ressemble. Et le 22 mai, le podcast Destination va changer un petit peu, puisque l'on va vous proposer une destination plus localisée, dans le sens où on parlera du musée Ghibli et de son parc. Donc deux destinations phares, hein, souvent des voyages pour les amoureux du Japon, et d'Hayao Miyazaki. Ça, on va y dédier toute une capsule le 22 mai, pour finir avec le 29 mai en podcast actualité tous les deux, Gaël.
Alors comme chaque mois, on va remercier les lectrices et les lecteurs qui nous ont commandé sur Kampai notre pack soutien. Donc pour rappel, ce sont l'ensemble de nos livres Là, on a sous les yeux nos 4 livres de voyage au Japon, donc pour bien préparer son voyage, visiter sur place, les itinéraires, et puis également le tome 4 hein, qui sortit récemment sur Tokyo. Donc on remercie ces 9 lectrices et lecteurs suivantes qui nous ont commandé des packs soutien. Yves, Thomas, Louise, Eric, Nolwenn, Médéric, Aïcha, Christiane et Jean-Loïc. Donc pour les commander vous aussi, soit le pack soutien ou soit des tomes individuellement, vous allez sur Campai dans la partie boutique.
Et donc c'est l'heure de conclure ce podcast Actualité Gaël. Donc on vous a sélectionné tout un tas de news pour ce mois d'avril. Donc on a hâte de vous retrouver pour le prochain, pour les news de mai. On vous remercie évidemment chaleureusement pour le partage que vous nous faites sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous faire aussi, à nous taguer sur les stories par exemple, sur Twitter ou sur Thread, entre autres, donc avec les petits liens partagés sur vos plateformes de podcast, afin que l'on puisse nous le savoir et puis que le monde entier puisse le savoir aussi. Hein. Y a pas de... Tout le monde veut partir au Japon.
C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à vous écouter et puis on vous remercie parce que c'est quand même beaucoup de travail. Là par exemple, Charlie a passé énormément de temps à préparer ce podcast actu, donc je le remercie beaucoup. Mais voilà, c'est mine de rien, une heure de podcast, c'est quand même beaucoup beaucoup d'heures de préparation. Donc merci beaucoup à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs d'être vraiment de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait plaisir et ça nous encourage à poursuivre l'aventure.
Ouais, voilà, on essaie d'arrondir un peu tout ça, d'embellir aussi ce qu'on peut faire aussi sur les stories, puis de vous diffuser aussi on a commencé des mini news, on va dire, des petits formats pour vous rappeler qu'il y a ce podcast et puis que voilà, il y a toujours forcément des actualités qui peuvent vous plaire. Et toi, Gaël, tu nous mets aussi une petite synthèse des time codes. Donc, si vous n'avez pas le temps d'écouter une heure ou deux de podcast, par exemple, eh bien, il y a des time codes pour se connaître l'actualité et puis peut-être glaner justement les informations qui vous intéressent le plus. Donc, merci à toutes et à tous et puis merci à toi, Gaël, pour ce moment encore une fois. Au revoir.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Campai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.